VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manela Kiza, la présentation de cette édition du vendredi 17 septembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Le président ivoirien Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo se sont rendus à Conakry au lendemain du sommet de la CEDEAO pour discuter avec la junte. Bavure militaire au Nigeria, au moins 9 civils tués et 23 blessés dans une frappe qui fait l'objet d'une enquête. Washington brandit la menace de nouvelles sanctions contre les protagonistes du conflit dans la région éthiopienne du Tigré. Aux États-Unis, les alentours du Capitole sont sous haute sécurité avant une manifestation demain des partisans de Donald Trump. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. Une mission ouest-africaine comprenant deux chefs d'État a rencontré le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de Conakry, à qui elle a présenté l'exigence d'élection dans les 6 mois. La réponse du chef de la junte n'était pas connue dans l'immédiat. Les précisions avec Abdulrahman Dia.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son homologue ivoirien Alassane Ouattara, accompagnés du président de la commission de la CEDEAO et d'autres responsables de haut niveau, ont rencontré le chef de la junte dans un hôtel de Conakry. Ce dernier est ressorti de la rencontre sous forte escorte militaire sans faire de déclaration. M. Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, s'est contenté de dire à l'issue des entretiens « Nous sommes en train de discuter ». Le colonel Doumbouya est en train de faire les consultations intérieures au pays. Il attend les conclusions de la concertation nationale qu'il a lancée mardi pour commencer à définir le contenu d'une transition censée aboutir au retour au pouvoir des civils, a ajouté le président ghanéen. Pour l'instant, il nous a donné la possibilité d'aller voir l'ancien président Condé, a-t-il ajouté, précisant qu'il se rendait immédiatement auprès de celui-ci détenu depuis le putsch. Alassane Ouattara a lui simplement assuré que les entretiens s'étaient très bien passés. Cette visite fait suite à un sommet extraordinaire de la CEDEAO jeudi à Accra, la capitale du Ghana, qui assure la présidence tournante de l'organisation consacrée à la Guinée à la suite du putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé.
Le groupe État islamique au Grand Sahara, dont le chef historique a été tué mi-août par les forces françaises au Mali, est capable de se reconstituer et n'abandonnera pas sa lutte de prédation djihadiste, a estimé vendredi à Ouagadougou le commandant de l'opération Barkhane. Le général Laurent Michon a indiqué qu'il s'agissait d'une vraie satisfaction collective, adressant une pensée aux populations qui ont été victimes pendant des années au Mali, au Niger et au Burkina. Propos tenus à l'issue d'une audience avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. L'annonce de la mort de Abou Walid al-Sahraoui intervient au moment où la force Barkhane se réorganise. Bavure de l'armée au Nigeria, une frappe aérienne dans un village de l'état de Yobe a causé la mort d'au moins 9 civils et blessé une vingtaine d'autres. Leur aide fait l'objet d'une enquête. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les faits remontent à mercredi dans le village de Bouhari, dans le nord-est du Nigeria. L'armée de l'air a reconnu jeudi avoir envoyé la veille un avion dans cette zone, longeant la frontière entre le Nigeria et le Niger, pour répondre à des activités terroristes présumées. Sans donner de bilan, l'armée a dit enquêter sur des affirmations faisant état, je cite, « de civils tués par erreur ». Plusieurs habitants affirment que 10 villageois ont été tués et au moins 19 personnes ont été blessées. Le chef de l'agence nigériane de gestion des crises de l'état de Yobe, Mohamed Goji, a quant à lui certifié ce vendredi que 9 personnes ont été tuées au lendemain d'une visite du village de Bouhari. Il a ajouté qu'au moins 23 personnes ont été blessées, dont des hommes, des femmes et des enfants. Il a expliqué aussi que ses services avaient commencé à réparer le seul puits du village, alimenté par l'électricité solaire et détruit par la frappe aérienne. 2 blessés dans un état critique ont été transportés dans un hôpital de la capitale de l'État. Pour le gouverneur de l'État de Yobe, Mai Malabouni, c'est peut-être un accident ou une erreur de cible, mais le gouvernement va agir main dans la main avec les organismes de sécurité pour découvrir les causes profondes de cet incident, a assuré son porte-parole, Maman Mohamed, dans un communiqué.
Le président américain Joe Biden a signé aujourd'hui un décret qui permettra à son administration de prendre des sanctions contre les protagonistes au conflit dans la région éthiopienne du Tigré s'il ne s'engage pas vers une solution négociée. Les précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Ce conflit est une tragédie, a estimé Joe Biden dans un communiqué, se disant horrifié par les informations sur des meurtres de masse, des viols et d'autres violences sexuelles destinées à terroriser les populations civiles. Les États-Unis ne prennent pas de mesures dans l'immédiat, mais se dotent d'un cadre pour le faire si nécessaire. Ce décret établit un régime de sanctions pour augmenter la pression sur toutes les parties qui alimentent ce conflit, afin qu'elles aillent à la table des négociations et pour que l'Érythrée retire ses troupes. Le Trésor américain a désormais l'autorité nécessaire pour imposer des sanctions contre le gouvernement éthiopien, le gouvernement érythréen, le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement de la région de l'Amhara. Faute d'avancées concrètes, les États-Unis se disent prêts à sanctionner des individus ou des entités dans les semaines à venir, même si aucun nom précis n'a été cité. Toutefois, l'administration américaine précise qu'une autre voie est possible, notamment accepter une médiation de l'Union africaine ou de permettre des convois humanitaires quotidiens.
Des centaines de camions ayant transporté de l'aide humanitaire ne sont pas revenus de la région du Tigré, ce qui, selon le Programme alimentaire mondial, empêche de répondre aux besoins urgents de la population. L'OPAM n'a aucune information sur l'endroit où se trouvent les camions ni à quoi ils servent, a déclaré la porte-parole de l'agence onusienne Gemma Snowden dans un communiqué. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rejeté vendredi la requête de l'ancien président Jacob Zuma qui lui demandait de revenir sur sa décision le condamnant à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Cette confirmation de la condamnation de M. Zuma ne remet pas en cause la libération conditionnelle dont il a bénéficié pour raison médicale début septembre. Parallèlement, la reprise de son procès pour corruption a été repoussée au 21 et 22 septembre dans l'attente de nouvelles conclusions sur son état de santé. Un groupe d'experts a critiqué vendredi les approches militaires privilégiées par le président congolais Félix Tshisekedi pour mettre fin au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo où plusieurs centaines de civils ont été tués ces quatre derniers mois. Les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri ont été placées sous le régime de l'état de siège depuis le 6 mai dernier par le président Tshisekedi, avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des groupes armés. Un député tunisien farouchement opposé au président Kais Saied a été violemment arrêté par des policiers en civil vendredi alors qu'il se rendait au tribunal militaire de Tunis pour se présenter devant un juge d'instruction. Selon son avocat, Seyfeddine Maklouf, chef d'Al-Karama, un parti islamo-nationaliste ultra-conservateur allié au mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, est poursuivi par la justice militaire. Il a perdu son immunité à la suite du coup de force du président Saïd, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les voyageurs qui arrivent aujourd'hui et demain à l'aéroport le plus proche de Washington, D.C., seront confrontés à une sécurité accrue à cause d'une manif prévue samedi en soutien aux personnes accusées d'avoir participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier. Les précisions de John Lyndon.
Plusieurs centaines de manifestants sont attendus à Washington pour un rassemblement baptisé Justice pour le 6 janvier, une référence à la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier par des partisans de Donald Trump qui tentaient alors d'arrêter la certification de la victoire du président Joe Biden. Jeudi, le ministère de la Sécurité intérieure a mis en garde contre des possibilités de violence lors de ce rassemblement. Look Ahead America, le groupe pro-Trump qui organise ce rassemblement, affirme que plus de 600 personnes qui font face à des accusations criminelles suite aux émeutes du 6 janvier ont été maltraitées en raison de leur opinion politique. Dans un communiqué, Donald Trump a déclaré « Nos cœurs et nos esprits sont avec les personnes persécutées si injustement en relation avec une élection présidentielle truquée. » La police et les parlementaires se disent être prêts, même si la plupart des membres du Congrès sont actuellement hors de la capitale.
Une dizaine de milliers de migrants, dont de nombreux Haïtiens, attendaient vendredi sous un pont à la frontière sud des États-Unis d'être pris en charge par les gardes-frontières. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, ce soir, nous retrouvons Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Au Cameroun, les importations de poissons et crustacés au premier semestre ont chuté de plus de 18 500 tonnes, soit de 16% par rapport à la même période l'an dernier. Selon l'Institut national de la statistique, fin juin, elles ont culminé à environ 97 000 tonnes contre près de 116 000 tonnes au premier trimestre 2020. Dans la zone de la CEMAC, les importateurs disent avoir des difficultés à effectuer des transferts d'argent à l'étranger. Dans un communiqué, la Banque mondiale annonce qu'elle ne va plus publier de rapport Doing Business. Le rapport a été interrompu à la suite de la publication d'un audit indépendant montrant des irrégularités dans les données. L'audit a documenté comment la direction de la banque a fait pression sur les experts pour qu'ils manipule les résultats des rapports Doing Business de 2018 et 2020. Le financement du climat fourni par les pays développés aux pays en développement a atteint 79,6 milliards de dollars en 2019, indique l'OCDE, un montant loin des promesses avant même d'intégrer l'impact de la crise sanitaire. Les pays du Nord se sont engagés en 2009 à Copenhague à porter à 100 milliards de dollars par an. D'ici 2020, l'assistance aux pays du Sud pour s'adapter aux impacts du changement climatique et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Bagassi Koura ce soir. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. On commence par du football. La Ligue des champions de la CAF, phase de qualification. Les Centrafricains de Diplomate ont battu 1-0 Zwaneng Galaxy de Botswana. Les Diplomates sont malgré tout éliminés puisqu'ils avaient perdu le match aller 2-0. Défaite de Messager Ngozi du Burundi face aux Nigérians de USGN 1-0. C'est donc les Nigérians qui sont qualifiés. Également au programme, le Stade malien de Bamako contre l'AS Sonabel du Burkina Faso à l'aller 1-0 pour les Maliens. El Merrek d'Afrique du Sud affronte l'Express d'Ouganda qui l'avait également emporté 2-1 lors du match aller. Et voici quelques oppositions prévues ce samedi, toujours en Ligue des champions CAF. Heart of Oak du Ghana affrontera les Guinéens de Kamsar. Platinum de Zimbabwe reçoit les Angolais de Sagrada. Les Kenyans de Tusker accueillent AS Arta de Djibouti. Zanaco de Zambie contre Akonangi de la Guinée équatoriale. Zesco United, toujours de Zambie, reçoit les Royal Leopards de Swatini. Les Big Bullets de Malawi devront en découdre avec les Amazulus d'Afrique du Sud, Petro d'Angola contre les Fovu Baham du Cameroun et enfin les Mauritaniens de Nouadhibou, eux accueillent les Béninois du FC Lotto. Et toujours en football, une légère majorité de supporters de foot soutient l'idée d'un mondial plus fréquent. Selon un sondage en ligne publié jeudi par la FIFA en plein débat sur son projet de Coupe du Monde biennale, selon cette étude, Iris YouGov, réalisée auprès de 15 000 personnes, a un intérêt pour le football, une définition très large du supporterisme. 55% veulent voir la compétition reine de la FIFA plus souvent que tous les 4 ans. Parmi les répondants, détaille le sondage, 30% souhaiteraient que le mondial se tienne tous les 2 ans, 11% chaque année et 14% tous les 3 ans. Un rythme très inhabituel dans le sport international. Les plus favorables à cette fréquence accrue sont les jeunes générations et les marchés en développement. L'ancien ministre kényan des Sports, Hassan Wario, a été condamné à 6 ans de prison ou à payer une amende de près de 28 000 euros. Stéphane Arap Soy, chef de mission de la délégation olympique du Kenya au JO de Rio en 2016, a lui été condamné à une peine d'au moins 10 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de détournement de fonds lors de cette compétition des JO de 2016.
C'était les sports de Bagassipo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Une mission ouest-africaine de haut niveau conduite par le président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara a présenté vendredi à Conakry au chef des putschistes, le colonel Mamadi Doumbouya, l'exigence d'organiser dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Cette visite fait suite à un sommet extraordinaire de la CEDEAO jeudi à Accra, consacré à la Guinée à la suite du putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé. Les réactions à Conakry avec notre correspondant Zakaria Camara.
Dans les rues de la capitale, l'arrivée de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO est très suivie et commentée par les Guinéens.
Une élection au bout de ces 6 mois, là, c'est pas bon, parce que le peuple est un peu divisé. Imaginez-vous, en 2020, l'élection qui s'est passée, il y a combien de morts? Toutes ces victimes sont encore là. Au bout de 6 mois comme ça, organiser une élection, c'est aussi enflammer le pays. Déjà, le pays est instable. Vous voulez aussi rajouter une instabilité. C'est conduit à une guerre civile, pour moi.
Ce n'est pas à eux de décider que nous allons faire les élections en 6 mois. Ce n'est pas possible. Cette décision-là, moi, je n'approuve pas. On n'a qu'à laisser un peu de temps à ces militaires pour qu'on puisse vraiment mettre les choses en ordre avant d'organiser les élections. Quand on dit qu'on va faire une transition précipitée, ça revient à la même chose. Donc, les transitions, nous allons partir encore en transition.
Au fond, il faudrait qu'on fasse vraiment des assises autour de ça, entre la CEDEAO et ceux qui ont pris le pouvoir, de discuter, trouver des issues, des solutions. Mais je ne condamne pas l'acte de la CEDEAO, c'est salutaire.
La Guinée vivait sans la CEDEAO. Donc on va toujours vivre sans eux.
La CEDEAO, qui a suspendu la Guinée de ses instances, a aussi exigé la libération immédiate d'Alpha Condé. Mais pour ce Guinéen, le président déchu doit rester pour faire face à la justice.
On demande la libération d'Alpha Condé, étant donné qu'il y a des victimes, il y a des tueries, il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment, qu'on doit demander à Alpha Condé. Si on laisse aujourd'hui M. Alpha Condé partir, qu'est-ce qu'on va faire?
La rencontre entre les chefs d'État ivoiriens et ghanéens avec les nouvelles autorités militaires du pays a duré quelques heures. Mais on ne sait pas encore si Alpha Condé quittera la Guinée ou s'il restera, comme le réclament certains Guinéens. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Lors de sa dernière session extraordinaire tenue à Accra au Ghana, la CEDEAO a mis en garde les autorités de la transition malienne sur un éventuel contrat avec la société de sécurité privée russe Wagner. Les Maliens réagissent à cette mise en garde de la CEDEAO au micro de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Moi, par rapport à la venue de la société paramilitaire russe, une armée privée, d'après ce que nous avons comme information. Pour le moment, l'État n'a pas parlé, communiqué là-dessus officiellement, mais nous l'avons appris de gauche à droite sur les réseaux sociaux, dans certains journaux. Demandons d'abord aux autorités maliennes de s'exprimer là-dessus et de livrer le contenu de l'accord au peuple malien. On doit être au courant quand même de ce que cette société militaire doit venir faire au Mali. Quel est l'objectif recherché et quel est le coût que le Mali doit injecter dedans? Et également la durée.
Il est temps que la CEDEAO, en tout cas, prenne conscience de ne pas s'immiscer aussi dans toutes les affaires internes de ces pays membres. Parce que l'insécurité au Mali, ça n'a pas commencé maintenant. Il est grand temps que maintenant, les autorités maliennes prennent ses responsabilités. Et les autorités maliennes prennent en tout cas leurs responsabilités face à cette situation. Et si aujourd'hui, les autorités de la transition sont sur le point, en tout cas, de signer une quelconque convention avec une quelconque société russe pour, en tout cas, endiguer ce fléau dans ce pays. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est normal.
Je suis le président Mamadou Traoré, président du parti Union Angambou d'Union, membre de la coalition des forces patriotiques. Nos amis de la CDAO sont en train de nous faire des mises en garde sur la base des rumeurs, car ni le Kremlin ni les autorités maliennes n'ont confirmé qu'un tel contrat est en train d'être signé avec Wagner. Nous, Maliens, il y a plus de 8 ans, depuis 2012, que nous n'arrivons plus à vaquer à nos occupations. Nous n'arrivons plus à aller rendre visite à nos parents, qui sont même du sud parfois. Nous avons besoin aujourd'hui de trouver la formule pour que nous puissions avoir la quiétude, la paix, la sécurité dans notre République.
Deux hommes ont été accusés de diffamation après avoir menti à un journaliste burkinabé. Un récent reportage a révélé que des responsables de la distribution de l'aide exploitaient des femmes déplacées internes en exigeant des relations sexuelles en échange de nourriture. Le gouvernement et le média qui a publié cette affaire sont en désaccord total, alors que le procès des deux hommes est fixé à la fin du mois. Le point avec Niwa Kapumbu Villa.
À Kongoussi, dans le nord du Burkina Faso, deux hommes déplacés internes ont été accusés de diffamation mercredi. Ils avaient déclaré à un journaliste local que des femmes de leur communauté, dont une de leurs épouses, a été contrainte à des relations sexuelles en échange d'une aide alimentaire distribuée par le gouvernement. Le directeur de Minute.bf, important témoin qui a initialement publié cette histoire, ne s'est pas présenté à l'audience. Le juge a reporté le procès au 29 septembre. Par la suite, Minute.bf a publié une déclaration sur son site internet affirmant qu'il n'avait pas reçu de convocation à comparaître devant le tribunal. Lassane Sawadogo, directeur de Minute.bf, a déclaré à la VOA qu'il pensait avoir parlé à des témoins crédibles malgré les doutes qu'il a eus après publication.
Une de notre source a clairement dit que sa femme a échangé son sexe contre la nourriture. Pour nous, un mari qui fait une telle déclaration sur sa propre femme ne saurait mentir. D'ailleurs, comment on vérifie une telle information? On nous dit aujourd'hui que les intervieweurs disent avoir menti. Qu'est-ce qui dit qu'ils ne sont pas en train de mentir de nouveau?
Il a ajouté qu'il espérait que le gouvernement allait enquêter également sur les allégations de relations sexuelles en échange de nourriture dans d'autres régions du pays. Le mois dernier, la VOA et The New Humanitarian, un autre site d'information, ont publié des articles avec les témoignages de 9 femmes qui ont déclaré avoir été forcées à avoir des relations sexuelles en échange d'une aide alimentaire dans la ville voisine de Kaya. L'un des prévenus à l'extérieur de la salle d'audience de Kongoussi a déclaré à VOA qu'il avait menti à Minute.bf. Dans le même temps, des membres du département d'action sociale du gouvernement, chargés de distribuer l'aide dans la région, se sont aussi adressés à la presse locale. Lorsque la VOA a demandé une interview, ils ont répondu qu'il leur était interdit de parler sans autorisation aux médias étrangers. Lors d'une conférence de presse lundi, répondant à une question sur le même sujet, Laurence Iboudo-Marchal, la ministre des Affaires humanitaires, a reproché à Minute BF de s'être empressée de publier sans vérifier.
Ce que vous faites là, Minute BF, ce que vous avez failli détruire les familles. Nous avons laissé le temps de vous répondre. Vous avez une dénonciation aussi importante. Vous nous avez, est-ce que vous êtes venu nous écrire, nous faire écouter, vous dire, madame la ministre, voilà ce qu'on a pris, quelle est votre réponse? Parce que quand vous allez publier et vous allez publier notre réponse, parce que peut-être qu'on ne serait pas en justice.
Lors de la conférence de presse, la ministre a également été interrogée sur un récent rapport du groupe d'aide du Conseil norvégien pour les réfugiés, selon lequel le gouvernement était lent à recenser et enregistrer les personnes nouvellement déplacées et ceux qui, selon cette ONG, présentaient des risques pour ces réfugiés. Au cours de l'année dernière, le gouvernement a également mis en place une interdiction aux journalistes de visiter les camps pour les déplacés internes. Pour le moment, ni le gouvernement burkinabé, ni le site d'info Minute.bf ne semblent prêts à reculer. Et le prétendu scandale sexe contre nourriture Faso n'est toujours pas clarifié.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie se réjouissent de leur nouveau pacte de sécurité qui verra l'Australie acquérir la technologie américaine des sous-marins à propulsion nucléaire dans le but de contrer la Chine. Pékin a condamné cette alliance et Paris se dit indigné après l'abandon par Canberra de sa commande de sous-marins français. Le point avec Cindy Sain de la VOA, récit Jacques Aristide.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son collègue à la Défense, Lloyd Austin, ont accueilli leurs homologues australiens au département d'État à Washington pour saluer leur nouveau partenariat trilatéral en matière de sécurité qui inclut le Royaume-Uni, un pacte appelé AUKUS. Le secrétaire d'État Anthony Blinken.
La première initiative dans le cadre d'AUKUS est notre ambition commune d'aider l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine royale australienne.
Le pacte a provoqué la colère de la Chine et de la France. Pour Pékin, il met en danger la paix et la stabilité régionale. Paris, pour sa part, avait conclu un accord cadre avec Canberra pour livrer des sous-marins conventionnels français à l'Australie. La France accuse les États-Unis de l'avoir poignardé dans le dos et de ne l'avoir même pas consulté. Florence Parly, la ministre française des Armées.
C'est une énorme déception, d'autant plus que cela fait 5 ans que toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour la bonne mise en œuvre et le bon déroulement de ce contrat d'ampleur qui devait doter, conformément à sa demande, l'Australie de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle. C'était le cahier des charges.
Le patron de la diplomatie américaine a cherché à calmer le courroux de Paris. Pour Anthony Blinken, les États-Unis veulent que l'Europe soit impliquée dans la région Indo-Pacifique.
Comme je l'ai dit, la France en particulier est un partenaire vital sur cette question et sur tant d'autres depuis très très longtemps et ce sera le cas à l'avenir.
Le ministre australien de la Défense a tenté d'expliquer le revirement de Canberra. Peter Dutton indique que la marine australienne a dit préférer des sous-marins à propulsion nucléaire aux sous-marins conventionnels.
Nous avons donc examiné les options qui s'offraient à nous. Les Français ont une version qui n'était pas supérieure à celle opérée par les États-Unis et le Royaume-Uni.
Le secrétaire Lloyd Austin a lui réagi aux commentaires de Pékin.
Sur la question de la Chine, permettez-moi de souligner d'emblée que cet accord, cette relation ne vise quoi que ce soit ou qui que ce soit. L'intention ici est d'aider à améliorer notre coopération trilatérale et nos capacités à tous les niveaux.
Pour Julien Kou de l'université Hofstra, l'accord sur les sous-marins nucléaires montre que la Chine a vraisemblablement provoqué trop d'inquiétudes à des pays comme l'Australie dans l'Indo-Pacifique.
Pour les trois pays, d'approfondir encore plus leur partage de technologies militaires et de se concentrer sur le Pacifique, c'est un message, selon moi, qu'ils prennent cette question très au sérieux et qu'ils prennent la menace chinoise très au sérieux.
L'Union européenne déplore de ne pas avoir été informée ni consultée non plus sur ce pacte de sécurité. Pour Joseph Borrell, il s'agit d'un rappel brutal quant à l'autonomie stratégique de l'UE. L'accord, conclut-il, oblige à nouveau l'Europe à voir comment exister par elle-même.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Daniela Gaïma, Michel Claire Joseph, Georges Elonar Sayo, Eric Manela Kiza était à la présentation. Ici va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.